Merci Seigneur. Voilà, bonjour à ceux qui peut-être nous ont rejoints durant ce temps de louange. Que ceux qui sont peut-être pour les premières fois parmi nous soient les bienvenus. Peut-être trouvez-vous pour certains étrange l'expression de nos prières publiques. Mais nous croyons, voyez, que la foi, la vraie foi chrétienne ne se vit pas en catimini, mais qu'elle doit s'exprimer, croire à Dieu. Et c'est ce que nous faisons parce que le Seigneur a fait des choses merveilleuses dans notre vie. Vous n'êtes pas ici au milieu de gens qui ont adhéré à une religion, mais d'hommes, de femmes qui ont vécu une expérience qui a changé, qui a bouleversé, qui a transformé le cours de leur vie. Jésus-Christ est devenu leur sauveur. Et nous croyons que la volonté de Dieu, c'est que vous-même, chers amis, si vous ne l'avez pas encore vécu, vous puissiez vivre une expérience semblable et que votre cœur, eh bien, en soit et votre vie tout entière bénie. Voilà, nous allons à présent ouvrir notre Bible. La Bible, c'est un livre formidable, c'est la parole de Dieu. Amen. Les hommes qui l'ont rédigé l'ont fait sous l'inspiration directe de Dieu, et il nous apporte donc le conseil du Seigneur. On va lire dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, à partir du verset 10. Voilà. De temps en temps, mon épouse me dit « Ne sois pas trop long !» Alors, elle n'est pas là ce matin, mais je vais essayer de tenir compte de son exhortation, hein. Parce qu'elle me dit ce que vous, vous n'osez pas me dire. Hein. Jérémie, chapitre 31, et le verset 10. Il est écrit ceci. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasira de mes biens, dit l'Éternel. Amen. Voilà. Il s'agit là d'un passage prophétique qui annonce le retour d'Israël dans la terre de ses ancêtres. Et cette prophétie, elle est en voie d'accomplissement, puisque vous le savez que bien des Juifs sur cette terre convergent vers le pays d'Israël. Mais cette prophétie ne sera pleinement réalisée que lors du retour du Messie. Et nous savons que le Messie, c'est Jésus. Alléluia. Et il y aura alors non seulement le retour physique, mais aussi le rétablissement spirituel du peuple de Dieu. Mais au-delà de cet aspect prophétique qui se réfère à Israël, il y a là aussi bien une allusion aux bénédictions qui découlent du salut que nous recevons en Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a apporté? Eh bien, il nous a apporté la délivrance. Alléluia! Nous étions sous le joug, sous la férule de Satan qui nous tenait sous sa coupe, mais il nous a libérés du pouvoir des ténèbres, gloire à Dieu. Il nous a guéris, pour certains physiquement, pour d'autres moralement, affectivement, psychologiquement. Il nous a restaurés dans notre être moral et spirituel. Il a pardonné nos péchés. Il nous a apporté la consolation, la joie, tout ça. C'est le salut en Jésus-Christ. Et si certains ce matin n'avaient pas l'espérance du salut, eh bien, chers amis, c'est le moment. Voilà. Peut-être si vous désirez connaître et vivre ce que nous avons vécu, dites au Seigneur, je ne te connais pas, mais j'ai besoin de toi, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, et il accueillera favorablement notre prière. Et puis, et c'est plus particulièrement à cela que nous voulons nous intéresser ce matin, au verset 12 de ce passage que nous venons de lire, il est dit ceci, n'est-ce pas, verset 13 plutôt, pardon, « Les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi, ou se réjouiront ensemble. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi, se réjouiront ensemble. » Ainsi, voyez-vous, il est question là des jeunes et des moins jeunes qui sont unis dans la même joie, dans le même bonheur, dans la même reconnaissance envers Dieu. Ainsi, parmi le peuple de Dieu, pour nous, l'Église, toutes les générations sont concernées par le salut de Dieu. Toutes les générations sont appelées à se réjouir ensemble à propos des bénédictions qui découlent de la grâce de Dieu que nous avons reçue par la foi en Jésus-Christ. Et ceci nous enseigne que dans l'Église chrétienne, n'est-ce pas, dans l'Église chrétienne dont Jésus est le chef, il n'y a pas, en tout cas, il ne doit pas y avoir de conflit de génération. Amen. Pour qu'il en soit ainsi, chacun, quel que soit son âge, doit comprendre quel état d'esprit il doit manifester, quels sentiments doivent se trouver dans son cœur, quel comportement il doit avoir. Chacun à sa place. Alléluia. Les jeunes, amen, et les vieux, comme moi. Hein? Vous savez, en Afrique, quand on dit le vieux, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est honorifique. C'est vrai, les Africains, là, hein? Nous, quand on dit le vieux, c'est méprisant. Pour les Africains, ce n'est pas du tout ça. Quand on dit le vieux, c'est honorifique. Et c'est dans ce sens-là que je veux employer ce terme. Chacun à sa place, chacun à sa place, nous avons besoin de tous. Et dans l'Église, il faut se réjouir de ça. Il y a des nouveau-nés, parfois ils poussent des cris intempestifs au milieu de la prédication, ça perturbe le prédicateur, mais tant pis, on fait avec. Hein. Il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des jeunes, il y a des couples, il y a des célibataires, il y a des aînés. Regardez ce texte, il est merveilleux. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Il doit donc y avoir une participation des uns et des autres à l'expression publique de la louange, de l'adoration. Vous en avez, quel que soit votre âge, le droit, le privilège et le devoir. Et aussi, non seulement la louange, l'adoration, mais la prière. Béni soit Dieu. Amen. Eh oui, tout à l'heure, il y a un temps de jeûne et de prière. Eh bien, pour le jeûne, les jeunes ont leur place. Alléluia. Vous voyez, la prière, c'est pas un truc réservé aux spécialistes de l'intercession, des gens qui sont capables de passer de longues minutes et de longues heures dans la présence de Dieu. Non, non, non. C'est pas un truc pour les papis, les mamies qui savent plus rien faire d'autre que de prier. Mais ça concerne aussi les jeunes. Je garde un souvenir délicieux de ce temps où j'avais quelque chose comme 19 ans, avec des gars qui étaient pour la plupart plus âgés que moi, bien on avait des temps de prière et puis c'était formidable. Et ça peut être encore formidable pour vous, chers jeunes. On se fait du bien dans la présence de Dieu. On se fait du bien quand on se tient dans la présence du Seigneur. Et je vous assure, bien des fois, n'est-ce pas, dans un temps de jeûne et de prière, on intercède pour les besoins de l'Église, on intercède pour les missions, on intercède pour les frères et sœurs persécutés, etc., etc. Et quand on sort de là, on sort tout regaillardi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, venez vivre cette expérience bénie, que Dieu soit loué. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous savez, il y a eu cette merveilleuse expérience, ce merveilleux moment de la Pentecôte où les premiers disciples, les premiers croyants, les premiers chrétiens, eh bien, ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit. La foule s'est amassée. Ils ne savaient pas trop ce qui arrivait. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? N'est-ce pas qu'ils parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises ? Ils sont pleins de vin doux, disaient certains. Alors l'apôtre Pierre a pris la parole et il a commenté l'événement. Il en a expliqué la cause. Et il s'est référé à un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre du prophète Joël. Écoutez ce que le prophète Joël a prophétisé bien des siècles avant que l'événement ne se produise. Acte chapitre 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. » Vous avez remarqué, il y en a pour tout le monde là, hein? Et le texte nous dit que autant les jeunes que les moins jeunes, eh bien, peuvent avoir part à la vie intérieure, stimulée par le Saint-Esprit. Que c'est merveilleux quand un enfant, ça arrive, alléluia, est baptisé du Saint-Esprit. Que c'est merveilleux quand un jeune exerce les dons spirituels. Que c'est merveilleux quand une grand-mère, avec sa voix chevrotante, apporte une parole prophétique. Et nous avons connu cela, vous voyez. Lorsque j'étais dans une certaine église où on servait le Seigneur, on avait un jeune, il avait ce gars-là, 25 ans peut-être, vous voyez. Il n'avait pas bac plus 5, il avait peut-être bac moins 10. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, il était tout à fait primaire. Mais mes amis, quand l'Esprit le saisissait, il y avait là des paroles de Dieu. Des paroles de Dieu. Des paroles prophétiques. Des paroles de sagesse et de connaissance. Hein? Je me souviens en particulier d'un jour où, avant le culte, un frère m'a parlé d'un problème particulier. On s'est mis à part là dans une pièce. Il a déchargé son cœur et puis ensuite le culte s'est déroulé. Et il n'avait pas assisté, lui, à notre entretien. Mais au cours du culte, eh bien, il a apporté une parole qui venait de Dieu et qui répondait exactement, n'est-ce pas, au problème que ce frère avait évoqué dans notre discussion. Ça, c'est aussi pour les jeunes. Et puis aussi, je me souviens de ce frère âgé qui, eh bien, un jour a répété les paroles que nous avions prononcées, mon épouse et moi-même, dans notre cuisine. Et non seulement il a répété les paroles, mais comme si Dieu se mêlait de la conversation, il a apporté la réponse. On a besoin de ça, mes amis. Et ça, c'est pour les jeunes, et ça, c'est pour les moins jeunes. La vie de l'Esprit. Sinon, eh bien, on peut s'agiter, sinon, on peut faire un tas de trucs, sinon, on peut, n'est-ce pas, meubler nos moments avec la technique. C'est bien la technique. Mais s'il n'y a que ça, nous sommes des cymbales qui résonnent. Nous sommes creux, nous sommes vides, nous sommes incapables, nous sommes inefficaces. Mais quand l'Esprit de Dieu nous saisit, et il veut saisir tout le monde, alléluia, les jeunes et les vieux, eh bien alors, tout change. Vous qui êtes jeunes, aspirez à ces choses-là. Dites, si vous n'êtes pas encore, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, dites-lui maintenant, Seigneur, permets que j'exerce les dons spirituels. Permets que j'élève ma voix. Pour louer ton nom, oh, j'ose pas, je suis timide. Mais l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, dit l'Écriture, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il est capable, Saint-Esprit, de balayer cette timidité-là, cette crainte qui vous tenaille, n'est-ce pas, pour que vous puissiez lever votre voix pour le louer, pour l'adorer, et aussi pour exercer les dons spirituels. Alléluia! C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les moins jeunes. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a pas de rivalité, mais il y a complémentarité au sein du peuple de Dieu entre toutes les tranches d'âge. Dans le livre de l'Exode, on n'a pas le temps de lire le texte, je signale simplement le fait au chapitre 17, verset 8. Il est question de la bataille que le peuple d'Israël a menée dans le désert contre Amalek. Amalek, c'était un peuple de pillards, vous voyez. Et lorsque les Israélites cheminaient péniblement vers le pays de la promesse, l'Écriture dit que Amalek, n'est-ce pas, ces pillards, se sont jetés ceux qui se traînaient à l'arrière de la colonne. C'est jamais bon de se traîner, n'est-ce pas? Et il a fait une razzia, il a fait un massacre. Alors Moïse a convoqué Josué, son jeune serviteur, en disant, allez, à ces Amalécites, tu vas leur régler le compte. Et la bataille a eu lieu. Voilà, sur la montagne, le vieux prophète Moïse, Aaron, qui n'était pas tout jeune non plus, et Hur se sont tenus. Et ils intercédaient dans la prière. Et là-bas, dans la plaine, Josué, le jeune serviteur, et l'armée d'Israël combattaient Amalek, voyez. Et d'une part, à cause de l'intercession, d'autre part, à cause de la vaillance des guerriers d'Israël, la victoire a été remportée. Il y en a pour tout le monde. La prière, c'est important, n'est-ce pas? Nous avons un combat à mener. Nous avons le combat de l'évangélisation. Nous avons le combat qui consiste à proclamer Christ à ce monde qui n'en veut pas. Quel défi terrible! Quel défi terrible! Vous savez, dans une guerre, on célèbre ces temps-ci le 100e anniversaire, hélas, de la Première Guerre mondiale. Dans une guerre, qui c'est qui est en première ligne? Dites-moi. Les retraités? Non. C'est les jeunes. Tous ces noms qui s'alignent sur les monuments aux morts de nos villes et villages, c'était de jeunes gars. Parce que c'est comme ça. Dans une guerre, ce sont les plus jeunes qui sont en première ligne. Ce qui ne signifie pas que les aînés ne sont pas concernés. Chers jeunes, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous dis ça avec mon cœur et l'amour que j'ai pour vous. Ne vous contentez pas de servir Dieu confortablement installé dans les quatre murs de notre lieu de culte. Mais allez sur le terrain. Prenez un paquet de prospectus. Je sais que certains le font. Béni soit Dieu. Comme on dit aujourd'hui, de flyers. De prospectus, on disait auparavant. De tracts. Prenez une guitare, ou je ne sais pas moi, hein, un banjo, une flûte, ce que vous voulez. Allez sur le papier là-bas. Chantez quelques cantiques. Témoignez de votre foi. Accrochez les passants. Invitez-les à la réunion. C'est ça le combat de l'Évangile. Et c'est les jeunes qui doivent être en première ligne dans ce combat. Vous l'avez fait pour certains. Eh bien, faites-le encore et faites encore plus. Et vous savez, il y a des joies extraordinaires quand on fait ça. Je me souviens, excusez-moi, hein, de faire référence à ça, mais ça m'a tellement marqué. Je me souviens, on était avec quelques frères. Tiens, il y avait le frère Schinner, nous n'étions pas encore dans le ministère. Mais on ne se préoccupait pas de ça. Oh, on était dans les rues, là. Et je me souviens d'un certain soir, alors que dans la rue, nous rendions témoignage. Je me disais, mais tu n'as vraiment rien à regretter. Tu n'as pas à envier les jeunes de ton âge qui prétendent s'éclater en boîte de nuit parce que ce que le Seigneur est en train de mettre dans ton cœur, ça vaut plus que tous les plaisirs du monde. Goûtez à cette joie de servir Dieu. Et quand vous aurez goûté à cette joie, vous aurez envie d'en faire non pas moins, mais encore plus. Pour la gloire du Seigneur, parce que le Seigneur vous aura béni et se sera servi de vous. Et puis, tenez, puisque nous parlons de complémentarité, il y a quand même un texte que je veux lire avec vous qui est tout à fait remarquable à ce sujet, complémentarité entre les jeunes et les moins jeunes. Dans le deuxième livre des rois, voilà, je pense que le texte va s'afficher, merci. Deuxième livre des rois, au chapitre 13, au verset 14, voici ce que nous trouvons. Deuxième livre des rois, chapitre 13, verset 14. Ok. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Eh oui. Vous savez que ça va nous arriver un jour. J'ai une prophétie ce matin. Vous allez mourir. Oula. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand, hein. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Remarquez ceci, c'était un homme de foi. Et Dieu ne lui a pas dit, Élisée, tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas la foi. Non, il était atteint, tout prophète qu'il était, tout homme de Dieu. Malgré les miracles qu'il avait vécu, dont il avait été l'instrument, il était atteint de la maladie dont il mourut. C'est écrit. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras trois fois. Écoutez ça. Vous avez là le jeune roi, Joas. Et puis vous avez le vieux prophète, Élisée. Alors regardez l'attitude que le roi, le jeune roi, a vis-à-vis d'Élisée. Et c'est significatif quant à l'attitude que les jeunes doivent avoir par rapport à leurs aînés. Il l'appelle « mon père, mon père ». Ce n'est pas son père biologique, mais il s'agit là d'un titre par lequel il reconnaît en Élisée le père spirituel de la nation. Et dans ce titre qu'il décerne à Élisée, mon père, il y a le respect, il y a l'affection, il y a la reconnaissance, et il y a aussi le désir d'écouter la voix prophétique qui va se faire entendre par Élisée. Et ça, c'est significatif de l'attitude, de l'état d'esprit que les jeunes doivent avoir par rapport à leurs aînés. Le respect et l'affection. C'est vrai qu'il est écrit dans la première épître de Pierre au chapitre 5, au verset 5, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et c'est sur ces aspects-là, du respect et de l'affection, qu'on doit se baser quant à la soumission. La soumission, ce n'est pas une contrainte pénible à laquelle il faut se plier. Pourquoi on a appris à se soumettre au Seigneur? En tout cas, il faut qu'il en soit ainsi. Parce que nous savons que nous l'aimons, alléluia. Et nous, qu'il nous aime, pardon, et nous l'aimons en retour. Eh bien, voyez-vous, quand l'Écriture dit, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, c'est pas la soumission, la contrainte est forcée. Ah, on est sous une espèce d'esclavage, de joug, on ne peut pas s'exprimer parce que, eh bien, on est cadenassé. Non, il se réfère à l'affection, au respect, leur port que l'on porte aux anciens, le respect et l'affection. L'humilité aussi, vous voyez, de la part du roi, vis-à-vis d'Élisée, il y a de l'humilité. Quand on est jeune, il faut savoir être humble. Salomon a su le comprendre. Quand il s'est retrouvé à la tête du royaume, David venait de mourir, son père. Quel homme d'une envergure extraordinaire. Mettez-vous à la place de ce jeune roi. Les historiens estiment qu'il devait avoir une vingtaine d'années. Il se trouve à la tête de la nation d'Israël. Son père était un héros, un homme de Dieu qui avait marqué son temps. Alors il prie et il dit, Seigneur, je ne suis qu'un petit jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Il faut que tu me viennes en aide. Et Dieu lui est venu en aide en lui communiquant sa sagesse. Voyez, l'humilité, l'humilité. Par contre, il y a eu un autre roi, d'ailleurs, le successeur de Salomon, Roboam. Il a manqué d'humilité, vous lirez son histoire dans le livre des rois. Il a méprisé le conseil des anciens. Il s'est monté la tête avec ses amis de jeunesse et il en a subi les conséquences fâcheuses et le royaume a été divisé. L'humilité consiste aussi à être prêt à accomplir les tâches les plus humbles, les moins valorisantes, en tout cas à vue humaine. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? Ils ont manqué d'intégrité, de vérité. Et le jugement est tombé. Dites, vous imaginez ça? En plein culte, deux décès. Tchouk, monsieur, et puis madame. Vous savez qui c'est qui a procédé à l'ensevelissement? L'Écriture dit, les jeunes gens se levèrent. Personne ne leur a rien demandé. Les jeunes gens se levèrent, ils les emportèrent et ils les ensevelirent. Vous voyez? Ce n'est pas agréable comme tâche. Ce n'est pas valorisant comme fonction. On n'a pas dit, voilà ces jeunes, ils ont le ministère de l'enterrement. Mais ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire. Et c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu, je vous assure. Pour les jeunes qui font le ménage, pour les autres aussi, hein, et pour les jeunes qui s'acquittent de cette tâche, béni soit le Seigneur. Ce n'est pas valorisant, le ménage. Quand il est fait, personne ne le remarque. Vous avez noté ça? C'est que quand il n'est pas fait, qu'on remarque que ça n'a pas été fait. Mais si les hommes ne sont pas reconnaissants, Dieu voit ce qu'on fait pour lui. Alléluia. L'humilité, le respect et l'affection. L'Écriture dit quelque part, je n'ai pas noté la référence, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Vous voyez, ça parle de respect, de déférence, de salutation. Vous les jeunes, allez vers les anciens et saluez-les avec l'affection que vous êtes capable de manifester. Ne restez pas simplement entre vous, mais allez vers eux. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait, comment dire, deux églises dans l'église. Une église de jeunes au milieu de l'église. Non, non, il faut savoir aller les uns vers les autres. La reconnaissance pour l'héritage spirituel qui nous a été transmis. Les jeunes sont les héritiers, les bénéficiaires du fidèle service, de l'engagement, du renoncement, des sacrifices, de la générosité, des prières, des témoignages, de l'enseignement, de la prédication, des efforts de ceux qui nous ont précédés. Tout ce que vous voyez ici, c'est le résultat de ceux qui nous ont précédés. On arrive, nous, moi y compris, après la bataille, si je puis dire. C'est tout cuit, c'est servi sur un plateau, il y a un local agréable, il y a le chauffage, il y a des chaises. Mais tout cela a été financé par ceux qui nous ont précédés. Et non seulement financé, mais ils se sont mis à l'œuvre. Quand je dis se sont mis à l'œuvre, avec leurs doigts, avec leurs mains, avec leur capacité. Béni soit Dieu. Et puis si nous sommes là, voyez, eh bien c'est parce qu'ils ont prié pour nous. Moi je bénis Dieu pour ceux qui ont prié pour moi. Ça fait 60 ans cette année, 60 ans, que je suis tombé malade. Et quelques mois après, mes parents, pour la première fois, sont venus écouter l'Évangile. Et dès le départ, voyez, l'Église et les serviteurs de Dieu se sont mobilisés en ma faveur dans la prière pour que Dieu me fasse grâce et me secoue. Et il l'a fait, béni soit son nom. Alors je lui suis reconnaissant, c'est l'œuvre de Dieu, mais je suis aussi reconnaissant à ceux qui ont prié pour moi et dont certains sont dans la gloire. Je suis reconnaissant pour les pasteurs que j'ai eus, pour les moniteurs, les monitrices d'école du dimanche, pour ceux qui m'ont enseigné la parole de Dieu, pour ceux qui m'ont cadré, qui m'ont repris, qui m'ont parfois corrigé, qui m'ont orienté, qui m'ont fait confiance, qui m'ont précédé. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on est jeune par rapport à ceux qui nous ont précédés. Gloire à Dieu. Alléluia. Reconnaissance et aussi s'inspirer de leur exemple. Dans Hébreux chapitre 13, verset 7, je lis le texte parce que je ne suis peut-être pas capable de le citer de mémoire. Hébreux chapitre 13, verset 7, voici ce que le Seigneur nous dit, n'est-ce pas? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il m'arrive souvent, de penser à ceux qui ont été mes pasteurs et qui, pour beaucoup aujourd'hui, sont dans la présence du Seigneur. Il y a parfois même, comment dire ça, certains échos, certaines paroles très précises qu'ils ont prononcées, qui résonnent dans mon esprit. Je me souviens, et je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai reçu de leur part. Je crois que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, non pas dire, ben, ils n'ont rien compris, les anciens. Nous, vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout révolutionner et on va amener, eh bien, le réveil. Non, 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 béni soit Dieu pour le réveil. Nous voulons compter sur la grâce de Dieu pour qu'il vienne. Et béni soit Dieu parce que nous sommes les héritiers spirituels de ceux qui nous ont précédés. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. Et puis l'écoute de la voix prophétique, voyez, par leur témoignage, ces anciens ont quelque chose à nous transmettre. Approchez-vous des aînés. Demandez-leur qu'ils vous témoignent de leur expérience spirituelle. Écoutez leurs conseils, voyez. En tant même que serviteur de Dieu, je vous fais une confidence. Vous savez quoi? Un pasteur a besoin d'un pasteur. Vous saviez ça? Un pasteur a besoin d'un pasteur. Parce qu'avant d'être un pasteur, avant d'être un berger, je suis une brebis. Une brebis du Seigneur. Et bien sûr, on pourrait dire, ouais, mais vous, pasteur, vous avez une ligne directe, le téléphone rouge branché vers le ciel. Oui, c'est vrai. Il y a ce privilège de pouvoir passer plus de temps que vous ne pouvez le faire à cause de vos activités professionnelles dans la présence de Dieu. Mais on a aussi nos fardeaux, nos soucis en tant que serviteur de Dieu, et puis aussi en tant que chrétien, en tant qu'homme. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé d'aller trouver un frère, un serviteur de Dieu, plus âgé, plus ancien, plus expérimenté que moi pour lui ouvrir mon cœur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Faites de même avec les anciens de l'Église. Allez vers eux. C'est bon, vous voyez, c'est bon. Quand j'étais à Avignon, j'avais toute une collection de mamies qui étaient des femmes de Dieu remarquables. Aujourd'hui, il y en a deux qui ont passé le cap des 100 ans. Hein. Et ces femmes, elles avaient vécu des expériences bénies. Et elles avaient quelque chose à nous apporter, quelque chose à m'apporter. Et je crois qu'il faut considérer les choses de cette manière. Alors, il y a l'attitude que le roi a eue vis-à-vis d'Élisée, mais il y a l'attitude qu'Élisée, le vieux prophète, a eue vis-à-vis du jeune roi. Alors d'abord, on remarque qu'Élisée n'a pas eu de nostalgie passéiste. De mon temps, c'était mieux qu'aujourd'hui. Vous savez ce que dit le livre de l'Ecclésiaste ? Ne dis pas d'où vient que les temps passés étaient meilleurs que le temps présent. Car ce n'est pas par sagesse que tu dis cela. Vous voyez ? Toutes les fois, les anciens, vous vous apprêtez à dire « De mon temps, et puis de mon temps, c'était mieux, on était plus spirituel. » Eh bien, balayez cette expression. C'était bien autrefois, mais ça peut être bien encore aujourd'hui. Parce que le Seigneur ne change pas. Tout simplement, n'est-ce pas? Tout simplement, gloire à Dieu. Et il y a encore de belles expériences à vivre. Il y a encore de grandes victoires remportées. Dieu reste le même que par le passé. Et Dieu veut faire même mieux dans l'avenir que ce qui a été fait dans le passé. Parce qu'avec le Seigneur, eh bien, il y a une vision toujours croissante. Voyez, la grâce ne diminue pas. Il y a une profusion de grâce à recevoir. Et il faut avoir foi dans l'avenir. Foi en Dieu pour les jeunes. Alléluia! Moi, je bénis le Seigneur pour les gens qui m'ont fait confiance. À leur place, je ne sais pas si je me serais fait confiance. Mais ils ont eu foi en Dieu pour moi. Alors que peut-être certains n'ont pas donné cher de moi en disant, celui-là, quoi? Lui, serviteur de Dieu, ça ne va pas à la tête. Je crois même que mon pasteur, il savait que Dieu m'appelait à son service avant même que moi j'en sois conscient. Lui, il avait compris. Foi dans l'avenir et foi en Dieu pour ceux qui représentent l'avenir. Il faut rester positif pour encourager, pour stimuler la foi et l'enthousiasme des plus jeunes. Pas être aigri, que c'est triste. Un vieux qui est aigri. Hein? Je disais, je crois, je ne sais plus si c'est dimanche dernier, il y a des gens, ils ressemblent à un cornichon dans un bocal de vinaigre. Ils sont amers. Ils sont écrits. Tu t'approches d'eux, c'est des porcs-épics. Ils ont toujours une parole qui t'assassine. Toujours une réflexion désagréable. Ils sont jamais contents. Je me souviens d'une église, je ne vous dirai pas où. Hein. Il y a une sœur, j'évitais systématiquement de lui dire « Comment ça va, ma sœur ?» Parce que je connaissais la réponse d'avance. Ça n'allait jamais. Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être gris. Je ne veux pas finir dans l'amertume. Je ne veux pas finir dans l'aigreur. Je me souviens d'un temps de ma vie où des gens qui étaient plus âgés que moi étaient extrêmement pessimistes, négatifs, critiques, acerbes, cyniques, vis-à-vis de l'Église, de l'œuvre de Dieu, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, etc. Et moi, j'entendais ce discours-là, et ça me perturbait. Je me souviens d'un temps, je crois pouvoir même dire où j'étais. J'ai dit, Seigneur, cet état d'esprit-là, je le refuse. Je ne veux pas me laisser contaminer. Je ne veux pas me laisser empoisonner par ce discours-là, par cette amertume, par cette aigreur. Bien sûr qu'il n'est pas question de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout va bien. Non. On peut voir les soucis, les problèmes, les difficultés, mais dire Seigneur, tu es encore assis sur ton trône et tu es capable de porter remède à la situation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne pas être amer, aigri, désabusé. Dans le psaume 71, il est question là d'un vieillard, d'un vieux bonhomme qui nous fait part de ses réflexions. Et il dit ceci, psaume 71, verset 17. Écoutez ça. Ô Dieu, tu m'as instruit depuis ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Mes frères et sœurs qui êtes avancés en âge, quand vous êtes au contact de plus jeunes, encouragez-les. Racontez-leur comme il est écrit là, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Encouragez-les dans la foi, stimulez-les dans l'action, faites-leur du bien. Les anciens vis-à-vis des plus jeunes ont le devoir de s'abstenir du mépris. Dans la première à Timothée, au chapitre 4, au verset 12, eh bien, s'adressant à son jeune collègue, lui-même serviteur de Dieu, donc Timothée, l'apôtre Paul dira, « Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en conduite, en parole, en foi, en charité, en pureté. Gloire à Dieu, sois un modèle, et ainsi, malgré ta jeunesse, tu forceras le respect. Et puis, vous qui êtes des aînés, priez pour les jeunes. Vous le faites ? Est-ce que vous le faites ? Faites-le encore plus. Pourquoi ? Pour deux raisons. Pour qu'ils soient gardés de la tentation. Toujours s'adressant à Timothée, qui était un jeune, Paul lui dit, fuis les passions de la jeunesse. Vous savez quoi ? Ce que vivent les jeunes aujourd'hui, c'est plus difficile que ce que nous vivions à leur âge. Parce que la pression du monde, l'influence de cette société qui est de plus en plus corrompue, je ne vous fais pas un dessin, est de plus en plus forte. Il y a là une pression. Il y a là des influences qui sont subies. Il y a là des tentations auxquelles les jeunes sont exposés parce qu'ils sont jeunes, tout spécialement. Il y a là, n'est-ce pas, des sollicitations du monde. Autrefois, peut-être, eh bien, il fallait aller vers le péché. Maintenant, ce n'est plus nécessaire, c'est le péché qui vient vers toi. Ce n'est pas vrai? Un serviteur de Dieu racontait quelque part, il passe une nuit à l'hôtel, et puis voilà, il allume la télé, paf, il tombe, il ne l'a pas fait exprès, le pauvre malheureux. Sur un site pornographique. Alors, ça n'a duré que quelques secondes, bien sûr, il a zappé ça, mais vous voyez, ça vous rentre dans la cervelle, ça. Il n'y avait pas ça autrefois, quoi. Il n'y avait pas toutes ces saletés sur la télé, Internet, les réseaux sociaux et tout le reste. Maintenant, ça y est. Et Dieu leur dit, fuis les passions de la jeunesse. Alors, certes, en tant que jeunes, ils ont les responsabilités, mais nous, derrière, on a prié pour qu'ils soient gardés du mal et du malin. Amen. Faites-le, chers amis, faites-le. Vous ne pouvez pas supposer les pressions auxquelles ils peuvent être exposés de toutes parts, lorsqu'ils sont au lycée, au collège, à l'université, lorsqu'ils sont dans le cadre professionnel, n'est-ce pas? Alors il faut prier pour eux. Il faut prier aussi pour qu'au sein de cette jeune génération, Dieu suscite des vocations. Priez le maître de la moisson pour qu'il lance des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, les 12 apôtres, ce n'étaient pas des grands-pères à la barbe blanche, hein. C'était des jeunes. Jésus les appelait jeunes parce qu'ils avaient une grande mission à accomplir. Et pendant des dizaines d'années, eh bien, ils ont servi le Seigneur jusqu'à ce que, pour la plupart, ils subissent le martyre. Prions pour que du sein de cette jeunesse surgissent des vocations. Vous savez, ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle. Qu'est-ce que c'est qui fait tout drôle? Eh bien, j'arrive à un âge où, avec un tas de frères de mon âge, dites, on arrive à la retraite tout d'un coup. Hier, on est rentré dans le ministère. Aujourd'hui, eh bien, il faut en sortir parce que, oh, il y a toutes ces années qui se sont passées. Mais dans ma tête, quelque part, moi, j'ai encore 20 ans. Hein. Mais non, mon gars, t'as pas 20 ans, t'as pas regardé les photos. Sur le permis de conduire, il y a un beau jeune homme de 18 ans. Et maintenant, sur la nouvelle carte d'identité, ça change d'aspect. Hein. Quand les gens que j'ai pas vus depuis longtemps me reconnaissent, je suis content. Hein. Ouais, mais le temps passe tellement vite. Et dans 3 matins, eh bien, ça y est, il faut passer la main, il faut passer le relais. Et il faut que derrière, il y ait une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui monte. D'où ils vont sortir? Ce n'est pas la génération spontanée. Ils ne vont pas surgir comme ça parce que, je ne sais pas, ils ne vont pas être envoyés de Mars ou de Jupiter. Non, ils vont venir, ils vont surgir de nos églises. Et il faut prier pour qu'au sein de notre jeunesse, il y ait cette vocation, ce feu qui brûle dans le cœur, cet appel divin. Vous savez, quand on sent l'appel divin, il y a 2 choses. D'abord, il y a la crainte. Seigneur, je ne me sens pas capable. Le prophète Jérémie dit, ah non, Seigneur, je n'ai pas parlé, je suis un enfant. C'est toujours comme ça. Et puis, il y a cette pression intérieure qui te fait dire, mais si je fais autre chose que de servir Dieu, je vais rater ma vie. Je ne perdrai pas mon salut, mais je vais rater ma vie. Parce que je sens, là, dans mes tripes, dans mon cœur, que c'est à cela que Dieu m'appelle. Vous savez, ce n'est pas une école biblique qui fabrique les ministères. L'école biblique, elle assure une formation théologique. Mais l'appel, il vient de Dieu. Et il faut qu'il y ait cela. Il faut prier pour cela. Et par-dessus tout, les anciens vis-à-vis des jeunes, vous savez quoi? Aimez-les! Amen! Aimez-les. Connaissez l'histoire du jeune homme riche qui est venu vers Jésus, Seigneur, faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Alors on sait qu'il n'a pas saisi la perche que Jésus lui tendait. Il est reparti tout triste parce qu'il voulait garder ses biens et il a perdu son âme. Mais il est dit que Jésus l'a regardé et Jésus l'a aimé. Alléluia. Jésus l'a aimé. Aimez les jeunes qui sont parmi nous. Aimez les jeunes. J'arrive à ma conclusion. Soyons miséricordieux et patients les uns par rapport aux autres. Quand on est jeune, hein, on a envie que les choses bougent. Plus fort, plus vite, même si on ne le dit pas comme ça, on le pense très fort. Les anciens sont vraiment trop rétro. Ne dites pas que ce n'est pas vrai, vous pensez cela. Mais vous savez, quand on prend un peu de bouteille, s'aperçoit, quelqu'un me le disait récemment, que les choses ne sont pas toujours aussi simples et faciles que ce qu'on le croyait au départ. Et puis les aînés, vous avez du mal à comprendre certaines de leurs attitudes. Vous voudriez qu'ils soient, comment il faut dire ça, calibrés selon vos propres critères. Eh bien, contentez-vous de les aimer et de prier. Il y avait dans l'est de la France un serviteur de Dieu que Brigitte a bien connu, je crois, et Stéphane aussi, qui, à une certaine époque, dans son ministère, a vu débarquer dans son église toute une bande, vous savez, c'était des hippies à l'époque. Alors ils sont arrivés avec leur attirail, vous voyez, leur pilosité particulière, leurs odeurs spéciales et leurs vêtements spéciaux aussi. Vous savez, ces espèces de, je sais pas moi, de jogging, là, tu peux en mettre deux à l'intérieur. Hein. Ils sont arrivés comme ça, peut-être qu'il y avait les chiens et tout le reste. Mon Dieu! Dans une église de Pentecôte, est-il possible? Mais Dieu a touché ces jeunes. Et vous savez, comment il commence? Par quoi il commence le Seigneur quand il nous touche? Par quoi il commence? Qu'est-ce qui change d'abord? Ah, vous connaissez bien votre catéchisme. Hein? L'intérieur, d'abord. Après, l'extérieur change. Mais l'intérieur d'abord, le cœur de ces jeunes a été changé. Et moi, j'ai vu des photos de leur baptême. Oula, ils n'étaient pas encore calibrés à la mode pentecôtiste, vous voyez. Ils avaient une tignasse, je ne vous dis pas, une barbe comme ça. Il les a baptisés, le pasteur. Waouh, il a osé. Ben oui, il a osé. Oh, aujourd'hui, ils ont changé de look, hein. Mais plusieurs parmi ces jeunes sont des serviteurs de Dieu et des servants du Seigneur, des pasteurs, des évangélistes. Vous savez, notre frère Claude Huot, vous rappelez, qu'on a reçu là, quand il nous a parlé de l'ALP, les pays persécutés, il faisait partie de cette bande de jeunes aujourd'hui, il est cravaté et tout le reste. Hein. Mais il n'était pas comme ça le garçon à l'époque. Le Seigneur est passé par là. Alors même si dans un premier temps, ils ne sont pas tout à fait comme vous voudriez qu'ils soient, oh là 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 là, l'essentiel c'est que l'intérieur soit changé et peu à peu, l'extérieur le sera également. Il y a un verset par lequel je termine. Vous voyez, je n'ai pas écouté ma femme ce matin, j'ai été long. C'est David qui écrit quelque part, je n'ai pas noté la référence. J'ai été jeune, je vieillis. C'est pas vrai, les aînés? Vous avez été jeunes. Hein? Et les jeunes, je vous promets, ça vous arrivera aussi. Si Dieu vous prête vie. Je vous promets. Tu te retournes un moment, tu dis quoi? Déjà? Ben oui. Parce qu'après tout, les aînés, permettez que je dise les vieux, sont d'anciens jeunes et les jeunes de futurs vieux. De telle sorte qu'on est tous dans le même bateau. On a tous besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Vous savez ce qu'on va faire? On va prier les uns pour les autres. On va faire quelque chose qui ne se fait pas dans nos églises. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, Jésus, des fois, il a fait des drôles de trucs, hein? Par exemple, il a craché par terre, il a fait de la boue, il a mis ça sur les yeux d'un aveugle et il lui a dit « Vas-y, te laver et tu vas voir clair. » Et ça a marché, il a été guéri. Vous imaginez un petit peu le spectacle ce matin? On va prier les uns pour les autres, on va se recueillir. On va se recueillir. Allez, je me jette à l'eau. Les moins de 35 ans, vous allez vous lever. Les moins de 35 ans, vous allez vous lever. Levez-vous, allez, n'ayez pas peur. Et les autres, vous allez prier pour eux. Amen. On prie ensemble. Seigneur notre Père,